Et c'est parti pour la deuxième partie des midis. Ne partez pas. À 13h, je discuterai avec Robin Campillo. Mais d'abord, Marie Sorbier, Le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Fausse déclaration, contre-vérité, réécriture, manipulation des faits. Dans l'actualité quotidienne, il est désormais difficile de ne pas douter de la parole publique. Alors, Ornicard, la revue du champ freudien, consacre son 60e numéro à ce que signifie mentir. Des psychanalystes et des écrivains, on y retrouve notamment des textes de Pierre Michon ou d'Éric Vuillard, explorent les différentes facettes du mensonge et nous proposent des outils pour comprendre mieux le monde contemporain. Alors, comme par exemple un essai d'Oscar Wilde intitulé « Le déclin du mensonge » et c'est le dossier du Point Culture du jour. Philippe Elbois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et auteur et vous venez de publier un texte dans le dernier numéro de la revue Ornicard intitulé « Le déclin du mensonge ». Ce titre, c'est aussi celui d'un texte d'Oscar Wilde, publié en 1889. Alors, qu'est-ce que développe Wilde dans cet essai ?
L'intérêt de ce texte, c'est qu'il oppose deux mensonges, au fond. Il y a ce qu'il appelle le beau mensonge et, à contrario, on peut lui opposer, disons, le gros mensonge. Le beau mensonge, c'est celui, dit-il, que tout le monde commet. Que tout le monde commet en parlant. Et c'est en ce sens-là que ça fait écho à la psychanalyse. C'est que le problème en parlant, c'est qu'on ne peut arriver à dire les choses, on ne peut arriver à dire les choses qu'à côté. Dès qu'on parle, on ment. Lacan a d'ailleurs fait un jeu de mots célèbre en disant « voilà ce qu'on dit ment ». On ne peut faire que rater le réel qui nous étreint, qui nous tourmente, parce qu'il échappe aux mots. Tout récit est menteur. Le beau mensonge, c'est un beau mensonge parce qu'il essaye de dire quelque chose, il essaye de créer quelque chose. Il essaye de cerner justement le réel qui nous tracasse. Alors, le gros mensonge, à contrario, eh bien, ça, c'est celui du... C'est celui de dire quoi ? Du vil politicien. Bon, tous les politiciens ne sont pas vils, bien sûr, mais il y en a de vils. Et cela, dit-il, il n'énonce jamais que des faits dénaturés. Ça, c'est Oscar Wilde. Et donc, loin de viser à cerner l'indicible, ce qu'on peut appeler la vérité, donc, il la nie. Et c'est là que vit la différence. Cerner le réel d'un côté, Lacan appelle ça aussi le bien dire, ignorer le réel de l'autre et préférer les sornettes. Alors, le beau mensonge, en plus, ça c'est Oscar Wilde a cette ravissante formule, je trouve, il ne copie pas la vie, dit-il, il la crée. Et il prend l'exemple de Balzac, qui en un sens a créé Paris, la vie parisienne. Paris, sous la plume de Balzac, n'est pas tant la ville lumière que la ville de la pulsion. Pulsion qui dévore, qui brûle ses enfants s'ils n'y prennent garde. L'événement le plus triste de sa vie, dit Wilde, fut la mort de Lucien de Rubempré, brûlé par ses propres passions, c'est-à-dire par son propre réel. Alors que la fiction crée la vie fait écho à un dire de Lacan, j'ai toujours trouvé profondément juste avec beaucoup d'autres, à propos de Goethe, dont il disait ceci, que ses mots avaient donné forme à nos sentiments. On ne vivrait pas le coup de foudre de la même façon sans Werther. C'est ça que ça veut dire. Wilde fait encore cette remarque qui s'avère très actuelle. La nature, dit-il, n'est pas la mère qui nous enfanta, mais elle est notre création.
En fait, Wilde, dans ce texte, il souligne, hein, c'est ce que vous dites, l'importance de l'art du mensonge. Il dit même que c'est une composante essentielle de l'art.
Absolument. L'art au sens qu'il crée quelque chose, c'est un pléonasme, mais il ne crée pas qu'une forme jolie. L'art cerne un réel.
Ça veut dire que l'art crée la vie ?
L'art cerne un réel. Absolument. Absolument. On ne vivrait pas de la même façon. On ne vivrait pas de la même façon sans l'art. Prenons par exemple, comment faire ? On s'est préoccupé pendant longtemps de l'éducation des filles, par exemple. Eh bien, qu'y a-t-il comme meilleure éducation des filles que de lire Madame Bovary ? Les classiques donnent forme à nos sentiments et on ne vivrait pas de la même façon sans eux.
Il dit aussi, hein, Wilde, dans ce texte, qu'il dénonce en fait notre culte monstrueux du fait. Comment vous la comprenez, cette phrase ?
Ah ça, c'est effectivement un grand moment dans ce texte. C'est que Wilde, évidemment, abominait ce qu'il appelait les réalistes. Alors, il n'a pas raison sur tout. Il ne supporte pas Maupassant et Zola. Ça, on peut lui pardonner, mais le vice, ce qu'il appelle le vice moderne, eh bien, c'est que la fiction est démonétisée au profit du fait. Nathalie Sarraud, plus près de nous, elle avait appelé ça l'ère du soupçon. On ne croit plus au personnage, on considère que le fictif n'est qu'un mensonge, mais un mensonge de bas étage. Et c'est oublier tout ce que le fictif amène en plus que de la fiction. Une fiction réussie amène un réel. La fonction créatrice de la parole est littéralement attaquée.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien, prenez par exemple nombre de films, de romans, de séries sur Netflix, etc. Vous trouvez toujours la mention basée sur une histoire vraie. Mm-hmm. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qu'annonçait Wilde à la fin du 19e siècle. Le culte monstrueux du fait. Si ça annonce quelque chose, c'est la destruction de ce que Wilde appelait le beau mensonge. Le beau mensonge en tant qu'il permet de cerner une réalité supérieure, une réalité seconde, c'est-à-dire bien plus sérieuse que ce qui fait notre train-train quotidien.
Dans ce texte de Wilde, et ce sera notre conclusion, Philippe Elbois, qu'est-ce que vous retenez en tant que psychanalyste ? Est-ce que cette notion de mensonge développée par Wilde prend sens particulièrement dans votre quotidien de psychanalyste ?
Ah oui, le beau mensonge d'Oscar Wilde a ceci de formidable, c'est qu'il n'oppose pas le mensonge et la vérité. Il les met du même côté. Toute fiction est un mensonge parce qu'elle rate le réel, mais en même temps, c'est ce qu'elle vise. Et c'est cet effort de viser le réel, de le cerner, qui est, si j'ose dire, vertueux. Lacan avait cette formule tout aussi formidable, il disait « le signifiant est bête ». Eh bien, c'est ça que ça veut dire, le signifiant est bête, parce qu'il manque le réel. Et en même temps, sans lui, le réel, on n'en aura jamais aucune idée. C'est ça ce qui fait le paradoxe de l'être parlant. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Elbois. Je renvoie à nos auditeurs donc au nouveau numéro de la revue Ornicard qui est dédié cette fois-ci bien au thème du mensonge. Elle s'intitule « Mentir ». Merci beaucoup Philippe Elbois.
Merci à vous. Au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la Commission nationale du patrimoine approuve enfin la pose de vitraux contemporains à Notre-Dame.
Oui, les négociations ont été âpres, mais les experts réunis hier pour donner leur avis sur le remplacement de vitraux conçus par Viollet-le-Duc ont finalement abouti. Dans 6 chapelles doivent donc prendre place les nouveaux vitraux conçus par l'artiste peintre Claire Tabouret. C'est l'aboutissement d'un long processus puisque la commission qui s'était déjà réunie en 2024 avait d'abord rejeté unanimement cette proposition. Le soin porté à préserver les vitraux retirés et aussi la volonté d'Emmanuel Macron et de l'archevêque de Paris semble avoir finalement convaincu la commission, dont la décision est, rappelons-le, consultative.
Un demi-million d'élèves de première ont passé ce matin l'épreuve du bac de français.
Oui, et pour la filière générale, ils ont eu le choix entre un commentaire de texte sur le roman L'ensorcelé de Jules Barbet d'Aurevilly et une dissertation sur le théâtre portant sur Le menteur de Pierre Corneille ou On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset ou encore Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute. Et pour la voie technologique, les lycéens avaient le choix entre un commentaire de texte portant sur Les élégies pour le temps de vivre de Richard Rognier ou bien un essai portant sur une œuvre littéraire. Ils devaient travailler sur Gargantua de Rabelais, ou alors sur les caractères de la Bruyère, ou enfin sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges.
Et pour finir, Marie, la 30e édition du Festival de Marseille a démarré hier.
Oui, ce festival pluridisciplinaire met à l'honneur la danse contemporaine. Cette année, 36 propositions dans 18 lieux de la ville vont être présentées jusqu'au 6 juillet prochain. Alors dès ce soir, La Nuée de Nassera Bellaza engage 10 interprètes dans une ronde inspirée des rituels des Premières Nations aux États-Unis. La semaine prochaine, au Théâtre de la Criée, la compagnie belge Peeping Tom proposera sa nouvelle création, Chronique, un voyage sensoriel entre l'irréel et la métamorphose. La pièce Coup de grâce de Michel Kelemenis nous emmènera dans une sublimation de la mort avec 7 interprètes sur scène. Et vous pourrez aussi applaudir d'autres grandes figures de la danse contemporaine internationale comme Christophe Papadopoulos ou Lia Rodriguez. Et bien sûr, le programme du Festival de Marseille est sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.